RCF.
Et à 18h10, nous allons retrouver Alexis Claudretz qui est très heureux de vous présenter le 18-19 en région.
Très heureux, effectivement, de vous retrouver pour vous accompagner comme tous les soirs, 18h10, c'est le magazine régional. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-François Boulanger, l'épisode 3 du 15e centenaire du baptême de Clovis. C'est à retrouver dans quelques secondes. Boris Ravignon, un maire qui nous parle, il est le maire de Charleville-Mézières. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'actualité du monde agricole avec Thierry Huet, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Ardennes. À noter d'ailleurs que les agriculteurs ardennais, demain après-midi à 13h, rejoignent le mouvement national et bloqueront l'autoroute A34 entre Reims et Charleville-Mézières à hauteur de Voynic. Blocage non-stop jusqu'à jeudi soir minimum pour le moment. Marc Truffaut, président de la Fédération française et internationale du sport adapté, sera également notre invité. Et puis l'on fera une découverte, un portrait, celui de Mathias Jourdui, qui est artisan d'art et il marie le monde végétal et le béton. Avant d'entamer le vif du sujet ce soir, on salue notre stagiaire à la rédaction qui nous accompagne en direct jusqu'à 19h. Elsa Gillot, bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir tout le monde.
On vous retrouvera notamment pour l'information. Vous nous parlerez d'Arnaud Robinet, candidat à la présidence du Grand Reims, ce n'est pas une surprise, et la page météo.
Exactement.
J'aime quand vous confirmez, ça me rassure, je me dis c'est bon, on est OK sur le programme. Tout va bien, 18h12, Jean-François Boulanger, normalement lui aussi, il est OK. Il est dans les starting blocks, comme dirait Jean-Pierre Benoît, on va aller le saluer puisqu'il est avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Nous avons vu lors de notre dernière émission comment l'Église catholique s'était trouvée lors du 15e centenaire du baptême de Clovis face à des tentatives de récupération d'extrême droite. Comment tente-t-elle d'y faire face, Jean-François ?
Alors vous avez raison de rappeler cela parce que la préparation du 15e centenaire du baptême de Clovis avait été l'occasion pour différents courants d'extrême droite de créer des comités célébrant l'événement dans une perspective politique très claire. C'était le cas du comité Clovis qui était très lié au Front National de Jean-Marie Le Pen. C'était aussi le comité 496 inspiré par les royalistes de l'Action française. Et la première parade à laquelle l'Église songe est une parade institutionnelle.
Quelle forme prend-elle ?
Alors, l'Église va créer ses propres structures destinées à cette commémoration très tôt pour occuper le terrain et s'efforce de leur donner un caractère quasi officiel pour marginaliser les associations concurrentes. C'est ainsi que le comité diocésain va accueillir des universitaires, dont Michel Rouche, grand spécialiste des Mérovingiens, à partir du 8 février 1991, mais aussi des représentants de la municipalité de Reims, qui sont présents à toutes les réunions à partir du 30 novembre 1991. Et très vite, tous conviennent de la nécessité de mettre en place une structure officielle. Ainsi naît l'association Mémoire du baptême de Clovis le 12 décembre 1992. Outre l'archevêché et la municipalité de Reims, l'université, le conseil général de la Marne et le conseil régional de Champagne-Ardenne y sont représentés.
Jean-François Boulanger, les comités d'extrême droite ont une dimension nationale. Prévoit-on une structure, j'allais dire entre guillemets, officielle à ce niveau ?
Alors effectivement, Mémoire du baptême de Clovis, c'est une structure locale. Donc il faut lui trouver un équivalent national. Et donc on prend contact avec la délégation des célébrations nationales, c'est un organisme très officiel, et un comité national pour la commémoration des origines de la nation, de la Gaule à la France, est créé par décret au journal officiel. Il est présidé par Marc Solon, qui est vice-président du Conseil d'État, mais qui a occupé auparavant des fonctions très diverses, notamment président de l'ORTF, etc. Et donc ce comité est placé sous le patronage du président de la République. Lui aussi regroupe des représentants des églises, des personnalités politiques, parmi lesquelles les présidents des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, des historiens qui vont de Jean Favier à François Furet, en passant par Pierre Chaunu et Jacques Le Goff.
Vous évoquez des historiens, Jean-François Boulanger. Sur ce terrain, que fait l'Église, justement ?
Alors, elle envisage justement une deuxième parade, qui est la parade historiographique. Le 15e centenaire est en fait le second, puisque le premier avait été celui de 1896, 14e, les premiers célébrés. Et les traditionalistes veulent inscrire la commémoration qui va avoir lieu en 1996 dans la trace de celle qui a eu lieu un siècle plus tôt. On va donc relire plus exactement les textes du 14e centenaire pour rappeler que Monseigneur Langénieux expliquait alors que le but de la commémoration, ce n'est point de revenir en arrière, de restaurer des institutions vieilles qui ne répondraient plus aux besoins de la société moderne. Je cite. En arrière-plan, il y avait à l'époque le ralliement. Et donc la réévaluation de l'épisode passe aussi par sa mise en perspective historique lors des homélies de la fête de Saint-Remi.
Nous connaissons bien effectivement en RCF cette tradition des homélies de la Saint-Remi. Quels grands noms de l'Église viennent-ils pendant la période de préparation du 15e centenaire du baptême de Clovis ?
Alors il y en a beaucoup, hein, par an hein, évidemment, mais on en retiendra deux. Monseigneur de Courtrai et Monseigneur Lustiger.
Pourquoi cela ?
Parce que leur homélie a été particulièrement importante. Et je vais commencer par celle de Monseigneur de Courtrai, qui vient à Reims le 7 octobre 1991, et je lui laisse la parole. Dans le contexte historique où il fut conféré, il parle du baptême de Clovis, deux obstacles, apparemment insurmontables, devaient être renversés. L'idolâtrie païenne, qui imprégnait toute la vie de ce monde barbare auquel appartenait Clovis, mais aussi, peut-être plus terrible encore, l'hérésie arienne, répandue un peu partout et qui menaçait de l'emporter. Et il ajoute, aujourd'hui, les idoles ont changé de nom dans nos pays industrialisés, mais elles sont là. Elles s'appellent argent roi, race supérieure, état tout-puissant, pouvoir absolu, religion dominatrice, nation sacrée, parti unique, héros souverain. Et donc vous voyez, derrière ces idoles nouvelles, il y a en fait, dans un certain nombre de cas, les partis d'extrême droite qui sont visés. J'ajoute que ce résumé rapide ne restitue pas toute la richesse de ce texte qui est très important pour la suite de la commémoration.
Cependant, Jean-François Boulanger, vous nous avez dit qu'on devait retenir deux noms. On a bien compris qu'on retenait Monseigneur de Courtrai, mais on retient aussi Monseigneur Lustiger. Pourquoi ?
Alors, Monseigneur Lustiger, effectivement, il vient un peu plus tard, le 3 octobre 1993. Et donc, dans la basilique Saint-Remi, il rappelle les conditions du baptême de Vladimir en Russie ou en Ukraine. C'est un autre débat qu'on a évoqué d'ailleurs dans Mémoire chrétienne, en 988. Ce baptême est considéré habituellement comme la naissance de la Russie comme nation, mais Monseigneur Lustiger ajoute que c'est pour dire que le cas de la France est différent. Car lorsque Clovis arrive, il existe, dit-il, un milieu chrétien cultivé et fervent qui fait partie de la latinité occidentale. Ce n'est pas le baptême de Clovis qui a créé la langue et l'identité de notre nation. Il y faudra plusieurs siècles encore, car l'histoire de France est beaucoup plus complexe que celle des nations plus tardivement arrivées à la conscience d'elles-mêmes. La France se constitue par la progressive intégration de nations entre guillemets diverses, par l'origine et même la langue, déjà évangélisées, chrétiennes et catholiques, avant d'être rassemblées peu à peu par l'ambition et la volonté des princes, puis de la République.
Si vous me passez l'expression, Jean-François Boulanger, on fait une sorte de bilan. On a une parade institutionnelle, une parade historiographique. Est-ce que ça sera tout ou est-ce que l'on va aller plus loin ?
Oui, alors il y aura une troisième parade qui porte sur le contenu à donner à cette commémoration qui doit se distinguer de celui donné par les traditionalistes et l'extrême droite. L'Église veut donner une signification plus ou moins européenne à l'événement. Un article paru dans le bulletin diocésain s'intitule en effet « Les Francs, un peuple européen ». Et d'emblée, il donne le ton, je cite, « Les prochaines célébrations du 15e centenaire du baptême de Clovis devront à tout prix éviter une approche étroitement nationale ». Alors pour quelle raison ? Eh bien parce que les frontières du royaume des Francs débordent l'Hexagone. Par conséquent, je cite toujours, « Ni baptême de la France, déjà en grande partie christianisée, ni baptême de l'Europe, il restait encore bien des terres à évangéliser au nord et à l'est. Cet événement est néanmoins l'un des moments clés de notre civilisation occidentale. Il conviendra de le célébrer au-delà des frontières. Et à cet effet, l'association Mémoire du baptême de Clovis sollicite une série de personnalités dirigeant des régions ou des États coïncidant avec le territoire du royaume des Francs. Parmi ces personnalités figurent la reine des Pays-Bas, le roi des Belges, le grand-duc du Luxembourg et le président de la République fédérale allemande. De la même façon, un colloque est organisé pendant le centenaire sur le thème « L'Église en Europe et la politique économique de la communauté européenne » auquel participe Jacques Delors. Sur le plan strictement religieux, Un pèlerinage des paroisses d'Allemagne consacré à Saint-Remi a lieu le 5 octobre 1996. Et par ailleurs, le jour de la fête de la Saint-Remi, la chasse et le reliquaire de Saint-Éleuthère, évêque de Tournai, donc belge, s'ajoutent dans la procession à ceux de Saint-Remi.
Faire des francs à un peuple européen n'est-il pas sans risque malgré tout, Jean-François Boulanger?
Alors, effectivement, c'est un peu le problème, parce que si l'idée de faire de Clovis un précurseur de l'Europe permet de dépasser le cadre national, où le courant traditionnaliste veut cantonner la commémoration, elle n'est pas sans risque, effectivement, parce que l'Europe est en train d'entrer dans une nouvelle phase de son histoire pendant la période de la préparation du 15e centenaire, ceci à la suite de la chute du mur de Berlin. Et c'est ce contexte européen, qui va se traduire par le traité de Maastricht, entre autres, qui explique la venue à Reims de Jean-Marie Le Pen le 6 septembre 1992. Il y vient dans le cadre de la campagne du Front National contre le traité de Maastricht, qui va faire l'objet d'un référendum le 20 septembre 1992. Mais ça, c'est une autre histoire, et si vous me permettez, on en reparlera la semaine prochaine.
À la semaine prochaine alors, Jean-François Boulanger, à bientôt.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h21, passé de 30 secondes, dans ce 18-19 en Champagne-Ardenne, un maire qui nous parle ce soir, comme tous les jours. Qui est avec vous, Jean-Pierre, aujourd'hui?
Avec nous aujourd'hui, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Boris Ravignon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Alors, tous nos vœux 2024, bien sûr, pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Quels sont vos vœux, Boris Ravignon?
Bien, mes concitoyens Carole Massérien et Ardennais qui étaient réunis le 7 janvier dernier, j'ai souhaité deux choses. D'abord, que nous conservions ce qui, je crois, est une grande valeur des Ardennais, qui est la solidarité. Au moment dans lequel, un peu difficile, dans lequel nous sommes, je crois que rester unis et savoir se soutenir, avoir une attention les uns pour les autres, c'est fondamental. Et je souhaite absolument qu'en 2024, on garde cette grande qualité qui est la solidarité. Mais j'ai souhaité aussi à mes concitoyens de renouer avec une vertu que les chrétiens connaissent bien, qui est celle de l'espérance. Parce que je crois qu'on a de vraies belles raisons en ce moment, de solides raisons d'espérer en un avenir meilleur pour les Ardennais. Mais avec les difficultés qu'on a vécues pendant plusieurs décennies, eh bien, on a un peu perdu l'habitude d'espérer et de croire que demain pouvait être meilleur qu'hier. Et donc ça, je crois que ce serait une vertu de retrouver l'espérance. Ça nous fera pas voir les problèmes plus petits. Ça nous aidera, à mon avis, ça nous donnera davantage de force pour les affronter.
Espérance aussi pour Charleville-Mézières et pour Ardennes Métropole. La situation, bon, est toujours difficile sur le plan national, sur le plan de l'emploi et tout cela, l'inflation. Mais tout de même, il y a quand même quelques petits signes de lumière qui se développent du côté de Charleville et d'Ardennes Métropole.
Oui, on a vu de belles nouvelles en matière d'emploi. Il y a quelques mois, la confirmation de la construction par Hermès d'une troisième manufacture, après l'ouverture l'an dernier d'une seconde, une usine de 300 personnes. On a le secteur des relations à distance, la relation client et usager à distance qui continue à se développer. Ce sont les call centers autour de l'ANTS, l'Agence des titres sécurisés et d'Intelsia. C'était 100 emplois il y a 10 ans, c'est aujourd'hui 700 emplois, les deux réunis sur Charleville-Mézières. Ce développement formidable a permis à nombreux jeunes qualifiés de trouver un emploi dans notre chef-lieu et aux alentours. Et puis effectivement, on a la traduction un petit peu concrète en termes démographiques de ces bonnes nouvelles, cette amélioration de la situation de l'emploi. C'est que depuis 5 ans, eh bien, nous n'avons pas perdu d'habitants en Charleville-Mézières. Notre population est stable depuis maintenant 5 ans. Et ça faisait 4 décennies qu'elle baissait d'année en année. Donc je crois qu'on a effectivement des signaux qui sont encourageants et qu'il faut pas triompher, il n'y a pas lieu, mais il faut aussi apprécier les bonnes choses quand elles arrivent.
Si on regarde la situation, bien sûr, nationale, l'actualité politique qui a retenu l'attention, c'est le remaniement du gouvernement et dans ce gouvernement, la nomination de Catherine Vautrin comme ministre du Travail, de la Santé et de la Cohésion sociale. Bien sûr, c'est une nouvelle qui met en avant une personnalité politique de notre région.
Oui, et c'est pour moi une amie, Catherine Vautrin, donc je crois que j'ai vraiment que de bonnes raisons de me réjouir de sa nomination. Au-delà de l'amitié que je lui porte, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, je crois que chacun le reconnaît, une énorme travailleuse, une grosse bosseuse, tout le monde je crois le dit également, et puis elle est dans des sujets dans lesquels elle a déjà œuvré dans le passé, la cohésion sociale, et donc je suis absolument certain qu'elle a à la fois la compétence, l'intelligence et l'envie d'être à fond dans cette mission. Donc c'est, il me semble, un très bon choix de la part du président de la République.
Mais Boris Ravignon, on vous avait confié, à elle et à vous, une mission d'étude et de réflexion sur l'avenir de tout ce qui peut se passer au niveau politique local, de ce qu'on appelle le millefeuille politique administratif. Alors, comment ça va se passer si elle n'est plus dans la course sur le tandem?
Alors, a priori, je vais repasser en individuel, puisqu'effectivement, le tandem que je formais avec Catherine Vautrin sur cette mission ne peut plus exister. Elle est, par ailleurs, je crois, tout à fait bien occupée aujourd'hui par ces nouvelles missions ministérielles. Et donc, il va me revenir de terminer cette mission, avec l'aide, bien sûr, aussi d'une petite équipe, hein, de hauts fonctionnaires qui sont mis à ma disposition pour ce travail. Donc, je suis pas inquiet, et on va poursuivre cette action. Là encore, il s'agit d'éclairer les choix, il s'agit de donner notamment au Parlement et au président de la République des éléments qui nous permettraient effectivement de réformer un peu ce système administratif qui est le nôtre, qui est très enchevêtré, qui coûte très cher, qui est très compliqué pour tout le monde. Et moi, comme élu local, j'en fais l'expérience au quotidien. C'est pour ça qu'on avait, avec Catherine, été choisi, parce qu'on a un certain nombre d'expériences parfois cuisante de cette complexité dont il faudrait arriver à sortir.
Dans un tout autre domaine, Boris Ravignon, on a connu un généreux donateur à propos d'Arthur Rimbaud, un document. Ça vous réjouit. On va connaître le nom peut-être dans quelques temps.
Alors je pense qu'on saura un jour, peut-être pas très lointain, mais d'abord, je crois qu'on peut se réjouir de toute façon, quelle que soit l'identité de ce généreux mécène, du fait que en dehors de la ville de Charleville-Mézières, soit trouvé donc là en l'occurrence un mécène, une personnalité pour acquérir deux lettres manuscrites d'Arthur Rimbaud et puis un poème d'Arthur Rimbaud recopié de la main de Paul Verlaine pour les acquérir donc à l'occasion d'une vente aux enchères qui a eu lieu en décembre dernier et les offrir immédiatement dans la foulée à la ville de Charleville-Mézières. C'est extrêmement généreux, c'est je crois bien vu parce que c'est une vraie richesse pour notre ville que cette postérité poétique d'Arthur Rimbaud qui est extraordinaire, qui attire finalement le regard du monde entier sur notre ville. Donc de renforcer le fonds de pièces et de manuscrits dont on dispose, c'est je crois particulièrement utile à Charleville-Mézières.
L'homme au semelle de vent, c'est Arthur Rimbaud. Bon, il revenait à Charleville, il partait au bout du monde. Mais vous-même, vous êtes très très attaché à la ville de Charleville-Mézières. Les Ardennais ne sont pas pour vous simplement des électeurs. Ce sont des gens que vous connaissez, que vous rencontrez, auxquels vous êtes attaché. Et parfois même, ça aurait pu, à un moment donné, vous empêcher peut-être d'avoir, une carrière. Rien n'est encore fait, hein. Vous êtes encore jeune, Boris Ravignon. Mais c'est vrai que vous êtes attaché à Charleville, hein.
Ah, j'y suis né, j'y ai grandi, je n'ai jamais eu d'autres ambitions d'investissement politique que mon département, que ma ville natale. Donc je me suis engagé il y a très longtemps déjà maintenant. Ça n'a pas fonctionné tout de suite parce qu'il a fallu conquérir la ville de Charleville-Mézières, ce que je n'ai fait qu'en 2014. Mais je suis extrêmement attaché à cette ville. Je crois que c'est arrivé que au moment où j'ai été désigné pour la présidence de l'ADEME, le démontre assez bien, lorsque au bout du bout, on m'a demandé de choisir si je souhaitais être président de l'ADEME ou maire de Charleville-Mézières, bien j'ai souhaité ne pas perdre mon mandat, et c'est probablement d'ailleurs ce qui a conduit au vote défavorable d'une partie du Parlement. Donc je crois avoir démontré, y compris effectivement là dans les actes, dans les faits, l'attachement immense qui est le mien, l'amour que j'ai pour ma ville, et j'ai absolument pas l'intention jamais de quitter et d'abandonner Charleville-Mézières. Ça restera toujours ma ville et le lieu où j'ai envie d'être utile politiquement.
Merci en tout cas Boris Ravignon d'avoir été avec nous. Et puis vous savez Boris Ravignon, on ne lit pas dans le marc de café ici sur RCF, mais l'avenir peut donner d'autres occasions, pas mal d'occasions, même attaché à Charleville, tout en étant attaché à Charleville. Bon, l'avenir, il est derrière soi chaque fois qu'on fait demi-tour, comme disait Pierre Dac. Donc ça, on n'en parle pas, mais enfin, on l'espère aussi d'une certaine façon pour vous, car on sait que les Ardennais vous restent fidèles. Merci. Merci Boris Ravignon, à très bientôt.
Merci à tous les deux, 18h30 pétante sur RCF, le journal régional. Avec les titres de ce mardi 23 janvier, Arnaud Robinet, maire de Reims, officiellement candidat à la présidence de la communauté urbaine du Grand Reims, sa vision et ses projets dans ce journal. La ville de Châlons-en-Champagne propose une mutuelle santé communale pour les intéressés qui habitent ou travaillent sur le territoire. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le maire de Reims, Arnaud Robinet, est candidat à la présidence du Grand Reims lors du vote lundi prochain. Elsa est avec nous.
Et oui, c'est officiel. Depuis la fin de semaine dernière, Arnaud Robinet, maire de Reims, est candidat à la présidence du Grand Reims. C'est depuis Joncherie-sur-Vel, hier, entouré des maires qui le soutiennent, qu'il a présenté sa vision pour la communauté urbaine.
Le Grand Reims, vous savez, c'est un peu une coopérative de maires, de communes, c'est-à-dire qu'on mutualise des moyens pour pouvoir faire à plusieurs ce que l'on ne peut pas faire seul. Et donc, c'est pour avancer plus loin ensemble. Donc, c'est ça mon objectif, c'est véritablement d'être un maire parmi les maires et de pouvoir échanger, mutualiser et porter avec l'ensemble des élus, des projets pour l'ensemble du territoire. Il y a plusieurs projets. L'attractivité, la question de ce qu'on appelle la plaque Pomacle-Bazancourt et de cette fameuse ZAC. Donc il y a énormément de sujets. Mais je crois qu'à pour avoir échangé avec l'ensemble des maires et un grand nombre d'entre eux, et ils sont assez nombreux, notamment du Tardenois à mes côtés aujourd'hui, c'est comment renforcer encore une fois l'attractivité de notre territoire et comment assurer un territoire où il fait bon vivre pour l'ensemble de la population.
Et oui, suite au départ de Catherine Vautrin, nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Arnaud Robinet est le favori pour prendre la suite qu'il compte inscrire dans la continuité de sa prédécesseur, tout en y apportant sa touche personnelle.
Et donc dans une forme de continuité d'une certaine manière pour mener à bien les projets qui ont été lancés par Catherine Vautrin et par l'ensemble des équipes, évidemment avec des différences parce que nous ne sommes pas identiques, mais c'est aussi une forme de continuité pour assurer l'ensemble des GT associés à toutes les réunions du Grand Reims. On est tellement mutualisés, l'administration commune, le cabinet commun, que Catherine Vautrin ne prenait pas une décision sans l'accord du maire de Reims et nous étions, quasi 7 jours sur 7 ensemble sur tous les grands sujets de la ville de Reims. Après, j'ai aussi une méthode pour travailler. Comme je le fais avec mes adjoints à Reims, je souhaite m'appuyer sur l'équipe de vice-présidents. Ils ne sont pas là uniquement pour faire de la représentation. Ils ont des compétences, ils ont une expertise.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes par Alexis Claudretz. À noter que lors du vote lundi 29 janvier, Charles Gossard, maire de Fismes, est lui aussi candidat à la présidence du Grand Reims. Une bonne chose pour la démocratie et pour nourrir le débat.
Merci Elsa, on vous retrouve dans quelques minutes avec la météo. La ministre de l'Éducation nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était en visite secrète dans la Marne ce matin au collège de Pont-Favergé-Moronvilliers, près de Reims. Une visite confidentielle pour ne pas attirer les médias et éviter les questions embarrassantes. Elle a simplement confié à nos confrères de l'Union « Je sais que je n'ai pas bien commencé, que j'ai eu des propos maladroits ». Les agriculteurs ardennais rejoignent la mobilisation nationale du monde agricole. L'autoroute A34 entre Reims et Charleville-Mézières sera bloquée à hauteur de l'aire de Voynic à partir de 13h ce mercredi. Blocage prévu en non-stop jusqu'à jeudi soir minimum. Erreur dans la facturation d'eau des habitants d'Ardennes Métropole. Boris Ravignon précise une surfacturation à plusieurs abonnés en appliquant un tarif postérieur à une consommation antérieure. Le tarif devait évoluer au 1er avril 2023, mais avant cela, certains foyers ont été prélevés sur le prix du nouveau tarif et non de l'ancien. 29 000 abonnés sont concernés et devraient récupérer en moyenne 39 euros, un coût total de 1,2 million d'euros pour la communauté d'agglomération. Les foyers concernés seront automatiquement remboursés à partir de la mi-février. De plus en plus de personnes cherchent des solutions pour faciliter l'accès aux soins et réduire les dépenses liées à leur remboursement. On pense aux jeunes, aux personnes âgées ou ayant de faibles revenus, mais la classe moyenne est elle aussi impactée. Pour ce faire, la ville de Châlons-en-Champagne propose une mutuelle santé communale comme le font de plus en plus de villes. Elsa Chailleur, vice-présidente de Châlons-Agglo en charge des solidarités, nous explique les objectifs de ce dispositif.
C'est de permettre à tous les Salonnais qui le souhaitent d'avoir une mutuelle à un tarif qui aura été négocié par la collectivité, la ville et le CCAS, de pouvoir renégocier ou pas et permettre aux Salonnais qui n'ont pas de mutuelle, parce que c'est trop cher, ils ont fait des choix, ça leur paraissait inaccessible, et de pouvoir revoir leur position et d'avoir une mutuelle, ce qui me paraît très important.
Pour le président de la mutuelle Juste, Philippe Mix, le bienfait principal de cette initiative est la négociation de tarifs groupés et de proposer une offre protectrice.
Il ne s'agit pas du tout de faire une offre low cost, il faut que les garanties soient de très très bonne qualité et avec une tarification particulièrement bien négociée, bien maîtrisée, ce qui permet aux Chalonnaises, aux Chalonnais, à partir de très très rapidement maintenant, de bénéficier d'un accès à la santé de très bonne qualité avec un gain en pouvoir d'achat significatif. Et la mutuelle étant une structure de l'économie sociale et solidaire, donc à but résolument non lucratif, et je brandis toujours haut et fort l'étendard de l'économie sociale et solidaire, la mutuelle Juste n'a pas de part de marché à gagner, elle a des solidarités à organiser.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Une réunion d'information est proposée aux Chalonnais. Le rendez-vous, c'est le 6 février à 18h30 à l'auditorium Pelloutier, place de Verdun, à Châlons-en-Champagne. Des permanences sont aussi proposées chaque lundi et vendredi sur réservation au 0809 546 000 ou sur le site internet juste.fr, juste J-U-S-T 100-E. Au bout, le numéro de téléphone, le 0809 546 3x0. Et puis, ça se passe au moment même. Jean-Pierre Benoît est sur place à l'hôtel de ville de Reims, où a lieu la cérémonie des vœux interreligieux. Il précise dans un tweet, Jean-Pierre Benoît appelle à la paix et à la fraternité lancée par les communautés catholiques, protestantes, juives et musulmanes. On aura certainement l'occasion d'en parler dans le 18-19 en Champagne-Ardenne de demain soir. Mais à 18h37, on passe à la page météo, désormais, de nouveau avec Elsa Gillot. Quelles sont les tendances pour ce mercredi en Champagne-Ardenne ?
En Haute-Marne, quelques gouttes sont prévues avec un mercure allant de 8 à 10 degrés. Attention au brouillard en soirée. Quelques éclaircies sur le territoire marnais, mais avec la présence de nuages, avec un thermomètre affichant des températures entre 8 et 13 degrés à Reims. Du côté ardennais, des nuages seront au rendez-vous avec des minimales de 7 degrés et des maximales à 12 degrés, notamment du côté de Sedan. Dans l'aube, des nuages encore et quelques gouttes de pluie avec un mercure qui va de 10 à 14 degrés. Ce mercredi, nous fêterons les Francs.
Et on se joint à vous, Elsa, pour souhaiter une bonne fête à tous les Francs. On croit savoir que vous en connaissez quelques-uns. Très bonne soirée, Elsa. Vous restez avec nous jusqu'à 19h. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et on part à la Croix-Champagne dans son atelier baptisé Rosanart et labellisé Made in Marne. Mathias Jourduy crée de magnifiques œuvres où se marient harmonieusement des éléments naturels au béton. Jérôme Gorgeau est parti à sa rencontre.
L'ambiance est assez créative autour de moi. C'est aussi un étonnant foutoir, mais il y a beaucoup de choses qui donnent envie. On est dans l'atelier de Mathias Jourduy, artisan d'art. Enfin, je crois que tu trouves le terme un peu pompeux, hein.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu pompeux. Bon, maintenant, c'est le terme exact. Effectivement, artisan d'art dans le béton et notamment les objets décoratifs en béton.
C'est ça. Alors, on est à la Croix-en-Champagne, donc joli petit village. Et là, c'est un sous-sol. Et alors, je dis ça, c'est un peu, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est un peu, ça va dans tous les sens. On sent vraiment qu'ici, il y a de l'effervescence, que ça bosse. Il y a plein de pistes en cours et tu as plusieurs projets en cours. Ça se voit, quoi, ici.
Oui, alors effectivement, je travaille le béton et le béton, ben surtout à cette époque-là, il met un certain temps à sécher. Donc c'est vrai que j'entreprends beaucoup de supports ou d'objets différents en même temps pour me permettre justement, ben, quand un est sec ou à peu près sec, je puisse continuer son élaboration pendant qu'un autre va finir de sécher. Après, il y a tout ce qui est phase de ponçage, de résinage, accessoirisation de tous les coques et les modules. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur chaque objet et ça me permet comme ça, j'entreprends beaucoup d'objets à la fois, comme ça, ça me permet toujours de pouvoir travailler en continu et en même temps varier les supports.
Parce que là, on a une odeur quand on rentre ici, c'est quoi cette odeur-là? Ça sent fort là.
Ah oui, alors là, j'utilise de la résine époxy pour certaines coques, uniquement d'ailleurs pour les coques qui sont destinées à contenir de l'eau en continu. Scoop de l'interview. Je vais arrêter justement cette fabrication de fontaines. En tout cas, je vais arrêter d'utiliser de l'époxy parce que justement, moi, je voulais me rapprocher de la nature. Je voulais que mes produits soient le plus naturel possible. Donc, j'utilise déjà un matériau, le ciment, qui est pas super naturel. Maintenant, je suis parti dans l'époxy parce que je voulais avoir une étanchéité parfaite. Mais bien, je me suis laissé piéger. Puis maintenant, je me rends compte que bah, effectivement, ça pue. C'est vraiment pas naturel. Et je voudrais me réorienter vers d'autres matériaux plus naturels. Et puis, si ça n'existe pas, on arrêtera les fontaines et puis on fera autre chose.
Parce que c'est vrai qu'elles sont belles. Hein, on voit déjà le. Mais alors, et tu m'expliquais un petit peu les origines de ce coup de foudre, on peut dire, un peu pour le béton. D'où ça vient? C'est quand même un matériau qui n'est pas si évident que ça pour un artiste ou un artisan d'art.
Non, c'est vrai. Alors, je l'ai pas choisi. on choisit tout, mais là, j'ai choisi sans choisir. En fait, moi, je voulais faire rentrer la nature à l'intérieur. Donc, quand je dis la nature, bah, ça peut être le végétal, ça peut être l'eau, la lumière par l'intermédiaire d'ampoules,
le bois,
comme ça. Le bois, effectivement, oui, le bois est assez présent dans mes réalisations. Et en fait, surtout par rapport justement au végétal, je me suis dit qu'est-ce qui va, quel matériau pourrait être étanche pour contenir de la terre, de l'eau, des plantes. Donc le plâtre, je savais que non. La céramique, oui, mais il faut un four, il faut cuire, il faut de la patience. Oui. Je suis pas patient.
Ça ne se devine pas parce que quand on voit tout ce qu'on voit autour de nous, on t'imagine très patient.
Oui, pas trop quand même. Donc en termes de faisabilité, je me suis dit le ciment, ça devrait être pas mal. On fait des maisons, les maisons sont à l'épreuve du temps. Donc je vais passer par le béton et en fait je me suis rendu compte très vite que le béton n'était absolument pas étanche si on l'utilise brut comme ça. Donc après j'ai cherché, j'ai découvert de l'hydrofuge, j'ai découvert d'autres produits d'étanchéité et de fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir des sphères. Moi, je travaille beaucoup sur principalement sur la sphère. Donc, j'ai réussi à créer des sphères qui étaient plutôt sympas, avec des épaisseurs qui sont quand même assez fines. C'est assez léger, tout en étant en béton. Et puis, maintenant, ça résiste très bien à l'humidité et ça contient des plantes et tout ce qu'on veut sans abîmer les surfaces des meubles ou quoi que ce soit.
Tu as des prochains rendez-vous qui nous attendent où on peut peut-être espérer te croiser des événements ou c'est encore un peu tôt dans l'année?
Alors, c'est encore un petit peu tôt dans l'année. Je suis en inscription là au Moulin de Givreval. Bon, là, c'est dans la Meuse. Et puis, j'aimerais tenter Art3F, le salon Art3F.
Oh oui, très bien.
Début juin. Magnifique salon. Donc, tout début juin à Reims. J'ai d'autres aussi projets en tête de réorganisation aussi un petit peu de l'atelier et puis d'autres productions qui vont voir le jour en 2024. Voilà.
On est impatients de voir ça. Merci beaucoup Mathias et puis à très très vite sur des salons, peut-être sur la foire ou ailleurs.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Rosanard donc qui est située à la Croix en Champagne entre Sainte-Menou et Châlons en Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Et tout de suite, on parle de la conjoncture des agriculteurs, désormais avec Thierry Huet, président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Ardennes. Il revient donc sur cette conjoncture au micro de Jean-Pierre Benoît.
Thierry Huet, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des agriculteurs aujourd'hui avec un certain nombre de manifestations qui ont lieu un peu partout et qui ont lieu également dans le sud de la France. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en toile de fond, qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs aujourd'hui?
Eh bien les agriculteurs aujourd'hui sont exaspérés. Exaspéré parce que finalement, on le dit souvent, ils se sentent mal aimés, mais ça c'est pas le problème. Exaspéré parce qu'aujourd'hui, les normes, les règles, les contraintes sont sans arrêt en train de se multiplier, d'augmenter, et nous ne savons pas comment. Quand on prend une décision un jour par exemple, on ne sait pas si cette décision elle est durable ou pas durable. L'exemple simple, aujourd'hui, nous souhaitons planter des haies parce que nous sommes des défenseurs de la biodiversité et puis de jolis territoires. Sauf que, par exemple, de nouvelles contraintes pourraient se voir imposées dans les années à venir La réglementation est en permanence en
mais
train
alors,
de changer.
Je vous interromps tout de suite, Thierry Huet. Comment expliquer toutes ces contraintes? Parce que ce que vous dites là, des gens qui ne sont pas spécialistes du monde agricole, ils le comprennent. Quelle est l'idéologie? Est-ce qu'on veut éliminer tous ces petits agriculteurs pour en faire quelque chose de mondialisé? Moi, j'ai l'impression qu'au niveau européen, c'est un peu ça, parfois.
Alors, on a un gros problème aujourd'hui, c'est que déjà, on écoute beaucoup plus les gens qui pensent que les gens qui font. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont tous ces gens qui font, comme tous les artisans, comme etc., tous ces gens qui se sentent non compris. Les paysans aujourd'hui travaillent, ont des difficultés. Le problème, c'est qu'on écoute des gens qui pensent, des idéologistes, des philosophes, des écologistes, etc., avec des règles qui peuvent se discuter, mais qui sont finalement inapplicables. Et la difficulté supplémentaire, c'est que on a en permanence notamment des enjeux qui reviennent, l'enjeu climatique, l'enjeu énergétique, l'enjeu économique, etc., avec des gens qui ne se parlent pas et qui amènent du coup des superpositions de règles, de contraintes et d'enjeux.
Donc en toile de fond, vous dites qu'il y a des problèmes, vous avez cité les exigences en quelque sorte, qui sont des normes, et que vous en avez un peu assez de tout ça, c'est ça qui motive. Et puis aussi le revenu agricole, certainement en même temps, qui n'augmente pas, c'est le moins qu'on puisse dire.
Eh bien, effectivement, aujourd'hui, déjà, les normes, la problématique, c'est que nous avons aujourd'hui moitié des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Dans les 10 ans qui viennent, il va falloir, au niveau français, que l'on renouvelle moitié des exploitants. Comment dire à un jeune, eh bien, installe-toi, mais les contraintes de demain seront plus compliquées que les contraintes d'aujourd'hui. C'est pas du tout motivant. En plus, quand effectivement l'économie et la rentabilité n'y est pas, parce qu'effectivement, les taxes d'une part, mais pas que, l'ouverture des marchés nous amène à importer des produits avec des règles différentes des nôtres, beaucoup moins chères que le prix de production que l'on a ici. C'est intenable.
On voit un peu partout, et on l'a vu d'abord en Allemagne, avec des manifestations exceptionnelles, dont on a peu parlé d'ailleurs dans les médias français. On voit en particulier déjà dans le sud de la France, du côté de Toulouse, mais un peu partout, des mouvements qui sont en train de monter. Et on voit d'ailleurs que le gouvernement, le ministre de l'Agriculture, commence un peu à rétro-pédaler pour avoir des délais un petit peu plus longs. Ça veut dire que tout le monde a peur finalement quand on se mobilise. Cette mobilisation, est-ce qu'elle va avoir lieu en Champagne-Ardenne?
Oui, et il y aura des actions. Nous avons déjà mené des actions, puisqu'en décembre nous étions encore en action syndicale. Donc nous sommes en permanence en action, mais nous aurons dans les semaines qui viennent des actions syndicales sur nos territoires et notamment dans le Grand Est.
Ça veut dire des manifestations, des blocages de route. Il y a déjà sur le plan national des personnes qui peut-être font exprès de faire peur. On avait parlé des gilets jaunes. Ils disent est-ce qu'il ne va pas y avoir la montée d'un mouvement qui pourrait être les gilets verts?
C'est effectivement une difficulté. C'est peut-être un enjeu parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait aussi quand même ce que je vais appeler une cohérence, une cohésion, une concertation entre nous. Donc l'unité paysanne, elle est une priorité. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Maintenant, là où il faut qu'on soit attentif, c'est que malgré tout, l'agriculture et les agriculteurs font partie de la société française, une société qui doit être démocratique, respectueuse, et qui doit permettre à chacun de vivre du mieux possible. Donc nous ne sommes pas des défenseurs de l'anarchie. Nous sommes des défenseurs d'une société de droit, mais d'une société de droit qui avance avec le respect de chacun, dont le respect de ceux qui travaillent, dont le respect des agriculteurs.
Il pourrait y avoir des mouvements qui auraient lieu prochainement quand même en Champagne-Ardenne. Ça veut dire quand même qu'on est vraiment à un tournant, parce que souvent on dit les agriculteurs, c'est un peu la tradition française. Et je pense que cette tradition française en ce moment, elle est en train de prendre un coup. Parce qu'il y a bien sûr des contraintes européennes, mais aussi des contraintes mondiales, qui font qu'on a l'impression que le monde agricole, eh ben, si on peut se débarrasser et profiter de ces passages de témoins qui se passent mal pour faire un peu le ménage, ça permettrait d'avoir des explications beaucoup plus grandes, des exploitations différentes, et puis peut-être même un mode de propriété du foncier qui serait peut-être complètement différent. Et ça peut être dangereux.
On est effectivement à la croisée de plusieurs chemins. Et on a effectivement deux éléments importants. Le premier élément, c'est qu'il faut déjà qu'on arrête de faire rêver les gens. On ne peut pas tout avoir pour rien du tout. Exemple, si demain on veut des beaux territoires en France, si demain on veut garder des agriculteurs, des activités, eh bien, il faut qu'on en paye le prix et il faut qu'on achète français. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, et notamment en parallèle, pour obtenir des prix, on veut de plus en plus aller vers la standardisation, l'industrialisation. Je dis on veut, non, les gens disent on veut pas, mais la réalité, c'est ce qu'ils achètent. Leur mode de consommation pousse les industriels encore plus à augmenter leur taille, à réduire leurs coûts. C'est un problème. Le consommateur, le citoyen, est un des maillons essentiels. C'est à lui de décider quel sera son avenir.
Donc, il faut que chacun comprenne les enjeux et Dieu sait s'il va y en avoir. Ce que je vous propose, Thierry Huet, c'est de nous retrouver d'ici quelques jours pour faire le point. S'il y a des mobilisations nouvelles et s'il y a des annonces à faire, on sent bien que les pouvoirs publics sont en train quand même de revoir, non pas un peu leur copie, mais enfin de s'interroger et de remettre un peu les questions un peu plus tard, enfin en 15 secondes, Thierry Huet.
La question, c'est qu'il ne faut pas reporter à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, parce que là, une fois que l'ensemble des activités seront mortes, c'est comme l'industrialisation à la française, on l'a perdue, aujourd'hui on voudrait bien la retrouver, c'est trop tard.
Merci Thierry Huet, merci Jean-Pierre Benoît, 18h50.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Le 30 juin, la flamme olympique fera étape dans le département de la Marne. Les premiers porteurs de la flamme ont été dévoilés par les sponsors et le comité d'organisation. Parmi les porteurs, Marc Truffaut, président de la Fédération française et internationale de sport adapté, entretient avec Christopher.
Bonjour Marc Truffaut.
Bonjour.
On est très heureux de vous avoir parmi nous dans les studios de RCF Cœur de Champagne pour évoquer ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui approchent à grands pas, dernière ligne droite on peut le dire, avec ce passage de la flamme olympique et paralympique dans notre territoire, on en parlera dans un court instant. Alors labellisé justement Terre de Jeux, le département de la Marne a investi 180 000 euros pour accueillir le passage de la flamme olympique le 30 juin sur un parcours passant par Vitry-le-François, Giffaumont, Sainte-Menou, Châlons-Champagne, Cézanne, Épernay et Reims. Et à ce titre, 6 de ces ambassadeurs ont été retenus parmi les relayeurs, dont vous, Marc Truffaut. Alors, parlez-nous un petit peu de cette nouvelle. Comment avez-vous réagi au moment de cette annonce?
Ah, c'est pas forcément facile à expliquer, puisque même si on savait qu'il y avait un processus qui était en cours, on n'a pas la réponse. Et c'est toujours une surprise et une très bonne surprise d'avoir cet honneur. Alors c'est en amont une bonne surprise d'avoir été proposé par le département, déjà, oui, qui identifie, oui, et qui met en valeur les activités qu'on peut avoir. Et puis après, le jour J, on reçoit, c'était un mail, hein, lundi matin, 9h02, ouais, comme vous voyez les mails.
Assez précis.
Ouais, assez précis, 9h02.
On se souviendra de cette heure.
On se souvient de ce moment-là et un mail qui annonce qu'effectivement j'étais retenu pour porter la flamme olympique lors de son passage dans la Marne.
Par la suite, vous avez réagi comment? Vous l'avez communiqué autour de vous, aux proches?
Au début, un petit peu perdu. Alors après, de savoir s'il faut en parler, si on a, voilà. Le premier réflexe, à un moment, ça a été aussi de prendre contact avec le département, oui, en disant, on fait quoi maintenant? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'en parle?
Oui.
Et puis, du coup, après, c'est parti sur les réseaux et j'ai pu voir, mesurer ce que ça représente aussi pour les autres.
Bah oui, bien sûr.
Parce que certes, c'est une grande fierté pour soi, un honneur pour soi, hein, mais c'est aussi, et je l'ai vu dans le mouvement sport adapté, c'est une grande fierté pour l'ensemble du mouvement. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ça a été de satisfaction en satisfaction avec aussi des sportifs du sport adapté qui sont pas forcément du département, qui ont reçu ce même mail et de voir que toute la famille du sport adapté allait se retrouver pour porter la flamme.
Alors, vous faites partie de l'un des 6 porteurs du côté de la Marne. Les autres porteurs, Véronique Pierron, du patinage de vitesse, Johan Dini, ce qu'on connaît très bien, de la marche athlétique, Marina Rousserie, triathlète. Donc vous, Marc Truffaut, en tant que sport adapté, Manon Durand, du canoë-kayak, et enfin Grégoire Pastresse, qu'on connaît très très bien dans le domaine du basket dans la Marne. Alors, parlons un petit peu de vous. Voilà, c'est un peu les coups de projecteur pour vous, Marc Truffaut, aujourd'hui. En tant que sport adapté, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Qui êtes-vous? Parce que peut-être que l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui se dise, mais qui est Marc Truffaut?
Bien sûr, alors c'est vrai qu'on prend la liste des noms, à la rigueur, ça fait drôle.
On connaît quelques noms.
J'ai l'impression de pas d'être le seul qui n'est pas sportif. Pour autant, j'étais sportif, mais pas au même niveau que les autres. Mais voilà, en fait, mon parcours, il est assez simple. Donc moi, je pratiquais le judo au départ, après l'athlétisme. Et puis, je suis surtout éducateur sportif. Et j'ai commencé ma carrière comme éducateur sportif à Châlons-en-Champagne sur les ZAT de Châlons-en-Champagne, les ZAT de l'Île-aux-Bois.
Oui.
Et puis après, j'ai été éducateur sportif sur le foyer de vie Jean Charcot, qui est maintenant devenu le foyer Pierre de Vernet, sur l'IME de Châlons également. Et puis maintenant, je suis directeur du foyer Mermoz, également de la CPEI sur Châlons-en-Champagne. Donc ça, c'est du point de vue professionnel.
Oui, oui.
Et c'est vrai que dans ces activités professionnelles, ben voilà, à un moment, quand j'étais éduc sportif, j'avais envie d'offrir une finalité à la pratique sportive que je proposais aux personnes en situation de handicap que j'accompagnais. Et ben voilà, on a créé une association sportive, sport adapté sur Châlons-en-Champagne. Et puis petit à petit, ben voilà, je vais continuer à m'investir. J'ai été président de la Ligue. Et puis après, je me suis investi au niveau national en tant qu'élu, en tant que vice-président au départ, et puis après en tant que président de la fédération. Et puis avec une petite particularité par rapport à d'autres présidents de fédération, c'est que je voulais absolument maintenir le lien avec le terrain. Et donc moi, je continue à entraîner, je continue à encadrer des sportifs de Châlons ou d'Épernay, puisque je suis sur un club à Épernay, et en athlétisme. Et j'entraîne sur le Pôle France athlétisme sport adapté, qui est basé sur le Krebs de Reims. Donc tout un tas d'activités, à la fois toujours sur le terrain, sur l'encadrement, sur l'entraînement de sportifs qui préparent les Jeux paralympiques depuis 2012, hein, puisqu'on avait commencé l'aventure à Châlons même, puisqu'il y avait Daniel Royer, qui a été le premier sportif du sport adapté à réussir à se qualifier aux Jeux paralympiques. Et donc ça, c'était pour Londres. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés et d'autres que j'ai accompagnés. Alors pas forcément de Châlons sur les Jeux paralympiques, parce qu'au niveau du sport adapté, il y a très très peu d'épreuves. Mais par contre, au niveau de la Fédération internationale, dont je suis également le président actuellement, il y a des championnats du monde et on accompagne de nombreux sportifs de haut niveau en sport adapté, Châlonnais également, et sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe.
Marc Truffaut, président de la Fédération française et Fédération internationale de sport adapté, avec nous aujourd'hui sur RCF. Marc Truffaut qui fait partie des porteurs de la flamme olympique qui se tiendra le 30 juin du côté de la Marne, sur un beau parcours traversant plusieurs communes marnaises. Vous venez de nous présenter un CV. Quel CV, j'ai envie de dire? Le CV avec un mot que j'ai retenu, transmettre. Vous adorez transmettre autour de vous, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur depuis de nombreuses années, on peut le dire.
Oui, après, je pense que moi, on m'a aussi transmis des valeurs et j'ai envie de les partager et les transmettre aux autres. Je suis pas du tout dans une notion de charité par rapport au handicap. Enfin, le handicap, s'il y a bien une question qu'il faut pas me poser, mais c'est quoi leur spécificité? Parce que souvent, quand on connaît pas le handicap, c'est ils ont quoi? Comment il faut faire pour s'en occuper? Et en fait, ça, je vais être incapable de vous y répondre. Par contre, comment s'occuper de Thierry, comment s'occuper de Daniel, comment s'occuper de Sébastien, etc. Ben ça, je vais pouvoir vous donner des conseils pour vous en occuper. Mais par contre, je ne partirai jamais d'une description d'un handicap.
Être égal, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est, c'est ça l'image que vous voulez transmettre au grand public. C'est qu'il n'y a pas handicap. On est tous pareils.
Ah ben, de toute façon, pour ceux qui arrivent et qui commencent à découvrir le sport adapté, ça sert dans la vie de tous les jours, puisque du coup, on part pas d'une description, on part bien de l'individu.
Oui, c'est ça.
Ce que quelqu'un sait pas faire, c'est pas bien grave. Mmh. Autant bâtir sur ce qu'il sait faire. Et c'est ce qui nous anime au quotidien et pour les pousser vers le haut, vers une autonomie et surtout qu'ils puissent décider d'eux-mêmes de leur projet.
Et donc, la suite pour vous, c'est de poursuivre toutes ces missions, tout ce que vous faites aujourd'hui, à la fois en tant que président des deux fédérations, mais même par rapport à ce que vous faites ici du côté de Châlons-en-Champagne, c'est quelque chose que vous allez poursuivre, vous allez continuer.
Ah j'ai pas l'intention de m'arrêter pour l'instant, hein.
Ouais.
Mais c'est au moins de pouvoir continuer à transmettre. Et puis aussi, c'est aussi une satisfaction de voir que, entre guillemets, ça fait des petits. C'est-à-dire qu'on voit des clubs châlonnais qui maintenant rejoignent le mouvement sport adapté.
Ouais.
On voit des
vous sentez qu'il y a un retour.
Des éducateurs. Hein. En fait, il y a un retour et puis il y a surtout un développement. C'est que souvent, quand on parle de sport adapté, on sait pas trop. Sport et handicap, on va parler de handisport, etc. Il y a deux fédérations. Il y a une fédé handisport qui est sur le handicap physique, sport adapté qui est sur le handicap mental, handicap psychique et les personnes autistes.
Oui.
Et donc, on est un petit peu dans l'ombre de la Fédération française handisport parce qu'on a une histoire qui est plus récente. Et donc, du coup, là, on voit que maintenant, on s'y intéresse. Les gens commencent à savoir ce que c'est que le sport adapté. Et puis, de voir que de plus en plus de clubs sportifs ouvrent leurs portes aux sportifs qui en font le choix.
Merci Marc Truffaut, président de la Fédération française et Fédération internationale de sport adapté. Je rappelle Marc Truffaut qui fait partie des 6 porteurs de la flamme olympique dans la Marne le 30 juin. À noter que là, il y aura ici la flamme paralympique qui passera dans notre territoire de la Marne avec une étape à Châlons-Champagne le 26 août. Merci Marc Truffaut, très bonne année et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Et merci à vous également, Christopher Fausten. Avant de refermer ce journal, les deux principales informations, les agriculteurs ardennais rejoignent la mobilisation nationale du monde agricole. L'autoroute A34 sera bloquée dans les deux sens à hauteur de l'aire de Voynich demain à partir de 13h. Blocage prévu jusqu'à minimum jeudi soir non-stop. Et puis au moment de ce magazine, Jean-Pierre Benoît était à la cérémonie de vœux interreligieux avec le pasteur Pascal Geoffroy et l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort notamment, entre autres participants. Très bonne soirée. En compagnie de nos programmes, rendez-vous demain 18h10.